En contraste avec la grande fidélité de Dieu et ses promesses inaltérables, ses promesses qui ne chancelleront jamais, il y a la faiblesse humaine et souvent, alors que Dieu est fidèle et qu'il n'oublie pas, nous sommes des êtres oublieux. Et il paraît qu'avec l'âge, des fois, ça s'aggrave un peu. Je ne sais pas s'il faut le dire, mais on essaye d'entretenir sa mémoire un maximum et je vous encourage à le faire. Quel que soit votre âge, entretenez votre mémoire. Mais il arrive quelquefois qu'on oublie quand même. On oublie parfois des choses ordinaires et on ne sait plus où on les a placées. Mais oublier quelque chose, ça va encore, on retrouve. Mais oublier quelqu'un, je ne sais pas si un jour on vous a oublié quelque part, on a pris rendez-vous, vous avez attendu au bord de la route et puis personne n'est jamais venu vous chercher, on vous avait oublié. Un jour dans un camp d'enfants, il y avait un enfant qui était franchement difficile. Et je ne vous raconte pas les détails, mais à un moment donné, il avait dépassé les limites et donc on devait appliquer la sanction promise. C'est important qu'on ne joue pas avec nos promesses, mais qu'on applique la sanction. Donc, est arrivé le moment où l'enfant était privé d'une soirée de jeu. Alors, c'était vraiment une sanction très dure pour l'enfant. Et puis, on avait prévu avec les deux, trois moniteurs que ce serait juste le premier jeu, on va le mettre dans sa chambre. Et puis, comme ça, il va ressentir quand même qu'il ne faut pas dépasser les limites qui ont été données. Mais voilà, le jeu nous a tous pris. La soirée de jeu nous a tous pris. Finalement, l'enfant a été oublié. Et on l'a retrouvé à la fin de la soirée, en pleurs, bien sûr. Et vous savez, le fait que je le raconte encore aujourd'hui, c'est que je m'en souviens. Et c'est que ça m'avait quand même touché de l'avoir oublié. Donc, quelqu'un qui est oublié par inadvertance signifie pour lui, on ne m'aime pas, on me rejette, et je ne vaux pas grand-chose, etc. Je suis quantité négligeable. Vous connaissez, je pense, le beau ministère de Bill Wilson à Brooklyn, ministère que j'ai visité cet été d'ailleurs, et qui m'a beaucoup impressionné, et qui rassemble plus de 20 000 enfants par week-end. C'est une des grandes écoles du dimanche de par le monde. Mais l'histoire de ce monsieur, qui est déjà venu ici à quelques reprises, et qui a plus de 60 ans maintenant, l'histoire de cet homme est tout à fait invraisemblable, car c'est l'histoire d'un enfant oublié. Il était un jour à New York avec sa maman, il avait entre 8 et 10 ans, je crois, et sa maman l'a mis au coin d'une rue et lui a dit « Tu m'attendras ici, je viens te chercher ». Et figurez-vous que cet enfant est resté au bord de la route pendant 3 jours. C'est authentique. Et sa maman n'est plus jamais revenue. C'est horrible. On peut se dire, mais comment est-ce qu'on peut réagir d'une telle manière? Pourtant, c'est son histoire. Et cet enfant qui était complètement déshydraté et ne pouvait pratiquement plus parler, a vu passer devant lui des centaines de gens. Et c'est un simple ouvrier qui conduisait un camion qui, en arrêtant au feu rouge, qui a remarqué cet enfant qui, manifestement, n'était pas comme tous les autres enfants. Ce petit regard l'a fait descendre de son camion, l'a fait monter et d'abord lui a donné à boire. Et cet enfant a été accueilli une nuit, deux nuits, et a été inscrit dans un camp d'enfants dans les 2 semaines qui ont suivi. Et il a donc récupéré et il a accepté Jésus et il est devenu aujourd'hui un homme connu dans le monde entier, qui accueille, lui l'enfant oublié au bord d'une route, qui accueille tous les week-ends plus de 20 000 enfants par son organisation Metro Ministries. Alors c'est une histoire dramatique qui nous montre que oublié même par sa propre mère, volontairement, malheureusement, et on ne juge pas la situation parce qu'on ne connaît pas la situation, oublié par l'être qui aurait dû l'aimer le plus, il a été vu par Dieu, il a été récupéré par quelqu'un qui a eu compassion et il a été un instrument utilisé dans une multiplication incroyable et tout à fait exceptionnelle. Dieu ne peut pas nous oublier. Je voudrais que vous puissiez retenir cette vérité fondamentale qui parcourt toutes les pages de la Bible, du début à la fin. Dieu ne peut pas nous oublier. Le prophète Ésaïe, qui est rempli du Saint-Esprit, va dire au chapitre 49, verset 14, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ?» Ça me fait penser à cette histoire. « Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Faut-il visualiser ce que ça veut dire ? Je t'ai gravé sur mes mains. Dieu nous dit, je t'ai gravé sur mes mains. Il va parler de Jérusalem et dire, tes murs sont toujours devant moi. Je t'aime, ville choisie. Je t'aime, peuple élu. Je t'aime, toi, créature. Un grain de sable insignifiant dans l'univers et pourtant si précieux devant Dieu, au point que je t'ai gravé sur mes mains. Et lorsque Jésus meurt à la croix, bien sûr, cloué sur cet instrument de torture par la méchanceté des hommes, mais en réalité par notre péché, en même temps, ces marques dans les mains et les pieds de Jésus subsistent encore dans l'éternité, dans le ciel aujourd'hui. Et ce sont les marques qui disent, qui crient à tout jamais, « Je t'ai gravé dans mes mains, c'est pourquoi je ne peux pas t'oublier. » Jésus prie pour nous. Et il prononce notre nom, il ne peut pas nous oublier parce qu'il prononce notre nom avec amour. Le verset que j'aimerais développer avec vous est très simple et on va le retrouver dans quatre situations différentes dans l'Écriture. Mais j'aimerais que vous puissiez l'entendre avec vos oreilles, et moi aussi je m'inclus, avec notre cœur, et qu'il puisse vraiment descendre dans notre expérience personnelle. Qu'il puisse vraiment nous intégrer notre vie et notre vécu. Et le verset est le suivant. « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Est-ce que déjà on veut juste l'intégrer comme cela ?« Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Ce n'est pas facile de faire confiance quand on a été déçu. Et la confiance entre êtres humains, ça se mérite, il faut le dire. On ne fait pas aveuglément confiance comme ça. Ça se mérite, une confiance. Mais même si quelqu'un a été gravement déçu par une trahison de confiance, justement, parce qu'on n'a pas été fidèle à sa promesse, j'aimerais encourager chacun, parce que ce genre de déception nous arrive à tous, j'aimerais encourager chacun en disant, même si les humains m'ont bien déçu à bien des niveaux, je veux donner mon entière confiance au Seigneur, qui lui est fidèle à jamais et qui lui va déclarer, ce matin je veux l'entendre de mes deux oreilles, de ma tête et surtout de mon cœur, il va me dire, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Dans Romains 3, verset 3, il nous est dit « Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ?» Versets 3 et 4. « Si quelques-uns n'ont pas cru, est-ce que notre incrédulité va anéantir la fidélité de Dieu ? Rien ne pourra jamais anéantir la fidélité de Dieu. » Même le pire des hommes ne peut pas toucher à la fidélité de Dieu. Même les pires situations ou les plus grandes déceptions ne peuvent toucher à la fidélité de Dieu envers nous. Il ne peut nous oublier, il nous a gravés dans ses mains. Ses paroles sont oui et amen. Celui qui a prononcé les paroles que je viens de dire, ce n'est pas Abraham ou David ou l'apôtre Paul, même pas un ange, mais c'est le Seigneur lui-même qui va dire dans l'Écriture, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » C'est lui-même qui va le dire. C'est lui-même du haut du ciel, au travers des prophètes, qui va déclarer cela, lui le Dieu dans lequel il n'y a ni ombre de variation, ni changement. D'éternité en éternité, il est Dieu. Alors avant de parler de ces quatre aspects de cette promesse, elle se trouve tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Et dans le Nouveau Testament, en particulier lorsque le Seigneur va rappeler ça, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas », dans la version grecque, donc la version originale du Nouveau Testament, eh bien, nous trouvons cinq négations. Cela veut dire que le texte en réalité veut dire « Non, jamais, je ne t'abandonnerai pas, ni non, jamais, je ne t'oublierai. » Cinq fois, Dieu dit « Non, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. » Juste pour appuyer avec force et nous dire « Non, certes pas, d'aucune manière je ne te délaisserai, ni ne t'abandonnerai jamais. » Et ces cinq négations dans une seule petite phrase donnent tout le poids, toute la force à cette déclaration puissante qui va se graver dans mon cœur ce matin. La première, ouvrez avec moi la Bible dans la Genèse au chapitre 28. La première fois que je trouve ce texte, c'est dans Genèse 28. Et au verset 15. On lit juste le verset 15 et puis je parlerai du contexte. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Il s'agit d'une déclaration qui est venue la nuit lorsque Jacob était en fuite, en départ, en partance de chez lui. Il était en rupture avec sa famille. Il avait véritablement brisé ce qui restait encore de cette famille, un peu dysfonctionnelle, il faut le dire. Isaac, Rebecca, avec les jumeaux, Jacob et Ésaü, et connaissez l'histoire de cette histoire à rebondissement, j'allais dire, où par tromperie, par tricherie, par mensonge, etc., Jacob arrive à avoir le droit d'aînesse, la bénédiction de son père, mais au prix d'une rupture et d'une colère de son frère et de tout un gâchis, il ne lui reste plus qu'une solution, c'est de partir. Alors dans cette fuite, il va s'arrêter à Beersheba, et là il aura ce rêve dans lequel Dieu lui apparaît. Et ce qui m'étonne, c'est que quand Dieu nous parle, il pourrait d'abord dire tout ce qui ne va pas et tout ce qu'on a à se reprocher, mais Jacob savait très bien ce qu'il avait à se reprocher. Mais il va dire des paroles telles celles-ci. Je suis avec toi, je te garderai partout, je te ramènerai, je ne t'abandonnerai jamais. Comme Dieu est bon de dire des choses pareilles, alors que vraiment, Jacob, il a de quoi être repris sévèrement. Mais Dieu ne le reprend pas de cette manière et lui donne toujours, le Seigneur donne la vision d'avenir. Même s'il y a des changements, même s'il y a des remontrances, des corrections sévères à faire, Dieu projette dans sa parole prophétique la destinée d'une personne qui est encore dans une vie chaotique et désordonnée. Dieu se projette déjà dans l'avenir. « Je te ramènerai », il parle déjà de ce qui va arriver dans beaucoup d'années. Le Seigneur a toujours pour chacun de nous une vision prophétique positive. Même s'il a des choses à nous dire, à corriger et à nous montrer, nous pointer avec le doigt pour qu'on change, qu'on soit guéri, libéré, il a cette vision prophétique comme pour... ici, pour Jacob, il donne cet encouragement au bon moment. Au moment même où le plan de Dieu avec le patriarche semble vraiment compromis. Vraiment, cette famille est compliquée et en division totale. Et c'est à ce moment-là que Dieu dit, « Je ne t'abandonnerai jamais. Je te ramènerai, je te garderai, etc. » Si Dieu a une telle promesse pour un homme avec un si grand problème et avec une nature si difficile à changer, connaissez l'histoire de Jacob, c'était compliqué de le changer. Il a gardé cette nature de tromperie tout au long de sa vie et vers la fin, au chapitre 31, lorsqu'il aura ce combat avec l'ange, il va être brisé, il va vivre un temps de transformation et Dieu va dire « Tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Changement de nature, d'identité. Et vraiment, en profondeur, il sera transformé. Dieu dit, au travers de cette première promesse, « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. » Même si tu es le cas le plus compliqué qui soit, et que ta vie est complexe et difficile, et que justement tu passes dans des ruptures et dans des moments vraiment tristes et difficiles, « Je suis là et je ne t'abandonnerai pas. » Mais tu passeras le chemin par lequel il faut passer. Dans 1 Chronique 28, 20, la même pensée est développée sous un autre aspect. 1 Chronique 28, 20, nous sommes dans un tout autre contexte et nous lisons juste le verset 20. David dit à son fils Salomon, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. » Voilà, c'est notre verset. « Jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de Dieu soit achevé. » Salomon est sans expérience. Il va prendre le relais de son père David, qui a tout préparé pour la construction du temple. Et ce jeune Salomon a besoin d'une parole d'encouragement qui va lui dire « Je suis avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas dans cette grande tâche qui est devant toi jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour la maison de Dieu soit achevé. » La Bible dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes le temple de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes son habitation. Et Dieu nous dit, le travail que j'ai commencé dans mon temple pour le construire ou le reconstruire, pour l'embellir et le façonner, pour qu'il soit un temple saint dans le Seigneur, ce travail-là, je n'abandonnerai pas et je ne délaisserai pas, jusqu'à ce que tout soit achevé. La bonne œuvre que l'Éternel a commencée, dit Paul aux Philippiens, « Je vais l'achever, dit-il. » La bonne œuvre commencée va être achevée. Et ce premier regard sur cette promesse, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas », est l'idée suivante. Dieu te dit, Dieu me dit, « Je poursuis mon plan dans ta vie. » Je poursuis mon plan. Pour Jacob, c'était dans un moment compliqué et très bas. Dieu lui dit, « Je vais continuer mon plan et il va réussir. » Ça va réussir. Mes amis, si ça peut réussir avec Jacob, ça peut réussir avec chacun de nous. Il y a des vies compliquées, je sais, j'en connais. Mais Jacob, tout de même, c'était du haut niveau de complexité et de difficulté à être changé. Mais Dieu dit, je te ramènerai, mon plan continue, et cela va se réaliser comme je l'ai prévu. Salomon, ne te fais pas de soucis. La tâche est immense, le temple est grand et il sera au-delà de ce que tu peux penser. Et tu as l'impression que tu ne vas jamais y arriver. Mais je te dis, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, jusqu'à ce que tout soit achevé. Le travail du Saint-Esprit dans notre cœur, le Seigneur va s'y atteler. Et le Seigneur n'est pas un entrepreneur qui fait faillite et qui laisse tout en chantier. Vous avez déjà vu des chantiers avec toutes les grues qui sont à l'arrêt, il n'y a plus rien qui bouge et tout est comme ça, statique, il n'y a pas de vie, tout est à l'arrêt. Dieu n'est pas en faillite pour arrêter son travail. Il continue son œuvre jour après jour, dans la mesure où je dis, Seigneur, je vais marcher avec toi dans l'alliance que nous avons faite, toi et moi. Alors tu es fidèle, et même si parfois je ne le suis pas, tu restes fidèle et tu me gardes dans ta main. Et Seigneur, je désire que ton œuvre dans ma vie continue. Il faut que ton œuvre réussisse. Il faut que je fasse partie de l'épouse qui sera sans tâche, ni rite, ni rien de semblable, me présentant devant le Seigneur comme un chef-d'œuvre du Seigneur à la gloire de son nom. L'œuvre que Dieu va commencer. Il te dit, je ne la délaisserai pas, je ne l'abandonnerai pas jusqu'à ce que tout soit accompli. Alléluia pour cette première promesse où Dieu nous dit « Je poursuis mon plan dans ta vie ». Le deuxième regard sur cette promesse « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas », nous le trouvons dans Deutéronome au chapitre 31. Deutéronome 31 et le verset 3. Ensuite, nous passerons de 6 à 8. Deutéronome 31, 3. « L'Éternel, ton Dieu, passera lui-même devant toi. Il détruira toutes ces nations devant toi et tu les déposséderas. Josué passera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. » Donc Moïse est vraiment sur la fin de sa vie. Il a 120 ans et il va passer le relais à Josué. Verset 6. « Fortifiez-vous, prenez courage. » Soyez sans crainte et sans effroi devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui leur en assurera l'héritage, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas, sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Le deuxième regard sur la promesse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, veut dire, je vais, dans un temps de changement, être avec toi. C'est ce que j'ai souligné dans ce texte au verset 6. L'Éternel marchera lui-même avec toi. Et dans le verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Mes amis, pour que notre vie soit une réussite, il faut que Dieu soit avec nous et devant nous. Bien sûr, il est derrière nous pour nous protéger. Il est au-dessus de nous parce qu'il est Dieu. Il est en dessous de nous parce qu'il nous porte aussi. Tout ça, c'est valable. Mais il est tellement important de réaliser que Dieu nous dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas parce que je serai avec toi dans le temps de changement et d'inconnu. » Peut-être y en a-t-il parmi nous qui sont dans des temps de changement et d'inconnu. D'ailleurs, demain est inconnu pour tout le monde. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Et Dieu nous dit « Je suis avec toi, tout simplement, et ma présence te suffit. » Ma présence te suffit. Est-ce qu'on dit amen à cela?
Amen.
Mais plus important encore, il va dire à Josué, le jeune et fougueux successeur de Moïse, le guerrier, le combattant aussi, mais aussi l'homme de Dieu, l'homme prophétique qui va réellement entendre la voix de Dieu et conduire Israël dans la conquête. Il va dire, l'Éternel marchera lui-même. Moïse va dire, devant toi, et il sera lui-même avec toi. Mes amis, la pensée que j'aimerais souligner, est-ce que nous laissons Dieu marcher devant nous? Ou est-ce que nous sommes parfois tellement pressés de ce que nous avons peur de perdre le contrôle, nous avons peur que quelque chose nous échappe et qu'une situation puisse passer devant notre nez, que nous avançons sans avoir l'aval du Seigneur, la confirmation du Seigneur, la parole du Seigneur, sans avoir entendu la voix de Dieu, « Vas-y, continue ». Je suis avec toi. Et c'est vrai que le Seigneur ne nous quitte pas pour autant, mais lorsqu'il n'est plus devant nous, nous sommes en danger. Et nous pouvons nous tromper. Le Seigneur peut toujours nous récupérer, mais que de souffrances, que de temps perdu, que de témoignages ratés, que de faiblesses sont arrivées parce qu'on a foncé dans sa propre volonté au lieu de considérer la volonté de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais que nous mettions la volonté de Dieu devant nous, et non pas notre propre volonté en premier. Beaucoup de personnes connaissent la volonté de Dieu, mais disent tout de même, « Oui, Dieu sera avec moi, et j'ai prié, mais je marche avec ma propre volonté devant. Je marche avec ma propre volonté, et je m'accroche à ma propre volonté, parce que je veux que mes désirs les plus chers se réalisent. Donc je prends ma destinée en main quand même. » Et beaucoup de chrétiens, en disant, « Seigneur, je t'abandonne tout, je te donne ma vie », prennent leur destin finalement en main eux-mêmes. Nous devons être responsables. Nous devons assumer notre vie clairement. Nous devons prendre notre vie en main, c'est vrai, mais avec Dieu et sa volonté qui est devant nous, qui est considérée comme étant la norme que je veux appliquer et à laquelle je veux me soumettre. et à laquelle je veux vraiment obéir, même s'il m'en coûte, frères et sœurs, même s'il m'en coûte, la volonté de Dieu devant moi. Il faut que Dieu marche lui-même devant moi et que je le suive, parce qu'un disciple, ça suit le Seigneur. Et ça ne précède pas le Seigneur, mais ça suit le Seigneur. Seigneur, marche devant moi, montre-moi le chemin. Et si tu ne bouges pas, je ne bougerai pas, même si j'ai envie de bouger. Si j'ai envie de prendre les choses en main, si j'ai envie de prendre ma destinée et d'avancer, de saisir ce qui passe, et j'aimerais tellement que ce soit quelque chose qui ne m'échappe pas, si tu n'avances pas, Moïse va dire, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, nous on ne bouge pas. Pour lui, c'était tellement clair que sans la présence de Dieu, la marche dans le désert, c'est une faillite, c'est un échec total, c'est la mort assurée. Il fallait coûte que coûte, que la nuée puisse être devant eux pour marcher devant eux. Donc le deuxième éclairage de notre promesse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je fais mon travail en toi, c'est la première chose, je marcherai devant toi, c'est la deuxième chose. Je marcherai devant toi et je serai avec toi. Le Seigneur veut nous encourager ce matin parce qu'il promet de marcher devant nous. Laissons-lui donc la place d'être le premier, le chef de file. Et peut-être y a-t-il des domaines où nous n'avons vraiment pas envie de lâcher le contrôle. Mais faisons-lui confiance puisqu'il est fidèle et qu'il nous promet, je ne peux pas t'oublier, je t'ai gravé dans mes mains, je te prononce dans ma bouche, je ne peux pas t'oublier. Eh bien, ce matin, Seigneur, je veux que tu marches devant moi dans mon projet de vie, dans ma décision que j'ai à prendre. Marche devant. Et si tu ne me dis rien de clair, je n'avancerai pas moi-même. Je ne m'avancerai pas, je ne m'exposerai pas. Je te laisserai passer devant, Seigneur, même si je dois patienter, même si je dois attendre, même si je dois être pour un moment encore dans l'inconnu. Ce n'est pas confortable, mais je te fais confiance, Seigneur. Précède-moi. Le troisième regard sur cette promesse, je la trouve dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Et nous lisons le verset 5 et 6. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels. Car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte, que peut me faire un homme. Peut-être que cette situation et ce verset est pour quelqu'un qui ce matin a besoin de l'entendre avec son cœur, pour reprendre courage, parce que vous êtes dans une situation matérielle, instable, difficile ou très contraignante. Le Seigneur dit, premièrement, ne te prends pas la tête avec l'argent. Ne te prends pas la tête avec l'argent. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Ne te compare pas à ce que les autres ont, ce que tu n'as pas. Ne fais pas des nuits sans sommeil par tes inquiétudes, etc. Contentez-vous de vos biens actuels. Ce n'est pas facile. Pour certains, c'est évident, c'est simple. Mais pour celui qui voit autour de lui que des gens qui se portent mieux que lui et qui ont toutes sortes de choses qu'il aimerait avoir, il a besoin de s'apaiser, de se calmer. Et de dire, Seigneur, je n'ai peut-être pas tous mes rêves, mais je t'ai toi et tes promesses. Et finalement, je suis fils du roi des rois, je suis prince ou princesse, et mon père est riche, et il ne me laissera pas abandonner, il ne me laissera pas tomber, il ne m'abandonnera pas, il ne m'oubliera pas. Je vais maintenant cesser de me comparer aux autres et de convoiter ou de jalouser ce qu'ils ont et que je n'ai pas et que j'aimerais tant avoir. J'aimerais que mon regard soit porté vers les autres choses. Jésus va dire dans Matthieu 6, Votre Père sait que vous en avez besoin. Nous avons besoin d'être dépollués et déprogrammés de toutes ces choses qui nous sont vendues jour après jour, partout. Et on nous fait croire que si on n'a pas ça, il nous manque encore ceci, ou on est malheureux parce qu'on ne peut pas se permettre ceci ou cela. Et toute cette pression qui est sur le monde occidental en particulier fait de nous des gens sous pression souvent et malheureux parce qu'on perd de vue les réalités éternelles. Ces choses matérielles nous sont données aujourd'hui, demain elles peuvent être parties. Probablement qu'il y en a qui pourraient raconter des histoires ici, des récits de vie où ils avaient beaucoup et aujourd'hui ils n'ont plus rien. Et ils apprennent aujourd'hui des choses qu'ils n'ont jamais apprises et par lesquelles Dieu veut nous faire passer. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, lorsque vous mettez votre vie dans la main de Dieu et lorsque vous dites « Seigneur, je te donne tout et je lâche aussi ma sécurité matérielle entre tes mains », ce n'est que comme ça que vous allez faire l'expérience que Dieu pourvoit vos besoins. Tandis que si vous avez tout, vous ne ferez pas l'expérience que Dieu pourvoit. Vous vous rendez jamais compte parce que tout arrive automatiquement sur nos comptes et dans nos assiettes. Mais lorsque vous confiez votre vie et que vous marchez par la foi, c'est là que vous faites l'expérience que Dieu dit « Je suis fidèle, je ne t'abandonnerai pas et je vais pourvoir. » Et tu vas même voir que je suis un Dieu très généreux pour toi. Je suis un Dieu généreux et que je t'aime et que j'aime te faire plaisir. Alléluia. Il aime nous faire du bien. Il aime nous étonner. Et quand on voit qu'un don ou un cadeau est signé par le Seigneur lui-même, waouh, ça nous donne un élan d'amour et d'attachement au Seigneur, ça nous donne un élan de foi dans beaucoup de domaines de notre vie. Le Seigneur dit, encore une fois, contentez-vous de vos biens actuels. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les dons et les talents que nous avons. Il y a des hommes et des femmes d'affaires qui ont à travailler avec les ressources financières, avec l'économie, etc. Eh bien, que Dieu les bénisse pour utiliser leurs dons, leurs talents, pour faire fructifier tout cela. Ça aussi, c'est la Bible. Il ne faut pas juste être statique et simplement passif. Non, jamais. Mais simplement, il est dit que dans notre cœur, dans notre tête, dans notre conduite, je me contente des biens que Dieu me donne. S'il me les donne aujourd'hui, je dis merci Seigneur. Si demain ils ne sont plus là, je dirai aussi que le nom du Seigneur soit loué. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, pour pouvoir dire ça, vous devez confier votre vie complètement au Seigneur et vous contenter intérieurement de ce qu'il vous donne. Alors, vous louerez Dieu quand tout va bien. Et vous louerez Dieu aussi, peut-être avec larmes, quand tout va mal. Dieu lui-même, je disais tout à l'heure au début du message, que ce n'est pas Abraham, Moïse ou l'apôtre Paul ou Jésus qui a dit « Je ne te délaisserai pas ». C'est Dieu lui-même, ici l'apôtre le souligne, car Dieu lui-même a dit. Dieu lui-même s'engage, ce n'est pas un prophète qui s'engage. Ce n'est pas un homme de Dieu qui s'engage à votre place. C'est Dieu lui-même qui s'engage. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est pourquoi je peux dire avec courage, Dieu est mon secours, je n'aurai pas peur. Et même si nous vivons dans un pays où, comparé à beaucoup d'autres, nous sommes dans le peloton de tête par rapport aux biens que nous avons, nous pouvons avoir, n'oublions pas que des millions et des dizaines de millions de gens n'ont pas du tout n'ont même pas le dixième ou le centième de ce que nous avons, et cette parole compte aussi pour eux. Je n'aurai pas de crainte. Enlève ta crainte, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Même au plus fort du problème, même au plus grand, dans la plus grande détresse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Le Seigneur est mon secours, je serai sans crainte. Que peut me faire un homme ? Ce qui m'arrive est permis par Dieu et Dieu ne permettra jamais que je sois éprouvé au-delà de mes forces. Gloire à son nom. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Et puis il ajoute dans Matthieu 6, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, les choses invisibles, les choses qui plaisent à Dieu, les choses qui sont, les choses que Dieu met sur votre cœur, les choses qui sont demandées par lui. Choses éternelles qui subsistent à jamais. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Le royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. Tu donnes, tu recevras toujours. Tu investis dans le royaume de Dieu, tu recevras toujours en retour. Frères et sœurs, vous qui donnez votre dîme, et j'espère que vous êtes de ceux-là, et qui suivez l'impulsion du Saint-Esprit pour les dons et la générosité, pouvez-vous dire, le Seigneur m'a toujours rendu ce que j'ai donné? Le Seigneur m'a toujours rendu ce que j'ai donné. D'une manière ou d'une autre. Et je peux proclamer aujourd'hui, je n'ai manqué de rien. J'ai manqué de rien. Mais le Seigneur nous rend toujours. Si je donne avec obéissance, avec cœur, avec foi et avec joie, Dieu bénit un donateur joyeux. Alors je peux dire vraiment, aujourd'hui, laissez le Saint-Esprit graver en vous, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, et je vais même t'étonner pour montrer que je suis un Dieu bienveillant et généreux pour toi. Et si quelqu'un dit ce matin, eh bien moi, je ne pense pas avoir jamais vécu ça, j'aimerais particulièrement prier pour vous. Parce que je crois que Dieu n'est pas menteur. Et que ce qu'il dit, il est derrière sa parole aujourd'hui. Aussi pour vous, dans votre situation. Et vous avez l'impression que votre foi, ça ne marche pas dans ce domaine-là. Eh bien, nous allons prier pour que vous receviez justement, comme il est dit, le Seigneur est mon secours, ça c'est la foi. Je n'aurai pas de crainte, ça c'est abandonner nos angoisses par rapport au sujet et notre panique. Que peut me faire un homme puisque Dieu est avec moi et que j'ai cette promesse? Alors Dieu nous dit, je te précède, je pourvois tes besoins, je poursuis mon œuvre dans ta vie. Et le dernier regard sur cette promesse se trouve dans Matthieu 28, 20. Et ceci est bien connu. Nous lisons simplement ce verset merveilleux. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si mon ressenti semble indiquer quelque chose, ma foi indique autre chose. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ça, c'est le langage de la foi. Ce matin, j'aimerais que nous puissions mettre notre foi au-dessus de nos ressentis et que notre foi proclame toujours la même chose. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et je le dis avec la paix du cœur, parce que la foi, c'est la paix du cœur. C'est le repos intérieur. Tu es assuré par la compagnie du Seigneur. Et pour ceux qui n'auraient jamais encore entendu l'histoire des pas dans le sable, je vais vous la dire pour terminer mon culte. Vous la connaissez, mais je vais la rappeler quand même peut-être que pour une personne qui ne la connaît pas. Une personne avait fait un rêve et elle voyait dans son rêve, elle se voyait marcher main dans la main avec Jésus au bord d'une plage et laissant deux traces de pas dans le sable. Et dans son rêve, à un moment donné, elle ne voyait plus qu'une trace de pas dans le sable et elle comprit que c'était les moments les plus difficiles de sa vie. Et dans son rêve, elle dit, mais Seigneur, pourquoi, dans les moments les plus difficiles, tu m'as abandonné puisque je ne vois qu'une trace de pas dans le sable? J'avais tant besoin de toi. Pourquoi tu n'étais pas là? Mon enfant, répond le Seigneur, dans les moments les plus difficiles de ta vie, tu ne vois qu'une trace de pas dans le sable. C'est parce que je te portais sur mes épaules.